Sonolab. Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores en pleine ébullition, tout droit sortis des ateliers radiophoniques de Jet. Tous les mercredis de 17h à 18h
sur le 91.2.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Jet FM et dans cette nouvelle émission de Sonolab, nous allons écouter une émission qui a été réalisée par des élèves de première dans le cadre d'un partenariat avec la salle de concert de jazz Le Panonica et le lycée Camus de Nantes. Ces élèves, ce sont des premières de l'option Art du son, une option qui a vu le jour l'année dernière, donc c'est cette deuxième année. Et cette option est menée par le professeur d'éducation musicale Valentin Leroux, avec qui nous avions déjà réalisé un projet l'année dernière. Et cette année, les élèves ont eu l'occasion de découvrir donc le jazz par le biais du Panonica. Ils ont pu assister à une conférence, ils ont été visiter le Panonica, assister à des balances et voir un groupe de leur programmation. Ce groupe, c'est 117 éléments, vous en saurez plus dans l'émission. Ils ont eu l'occasion d'interviewer des membres de l'équipe du Panonica ainsi que les membres du groupe 117 éléments. Et ils ont fait eux-mêmes le montage de toutes leurs prises de son pour pouvoir parvenir à réaliser cette émission de A à Z. Et pour finir, ils sont venus dans les studios de Jet enregistrer dans les conditions du direct. Avant de leur laisser la parole, je tiens à remercier Julien Jumeau, le chargé d'action culturelle de la salle du Panonica, et également évidemment toute l'équipe qui nous a accueillis très chaleureusement. Je tiens à remercier Valentin Leroux, le professeur de musique qui s'est joint à nous pour réaliser ce projet. Merci aussi au groupe 117 éléments pour sa disponibilité. Et enfin, merci à la DRAC des Pays de la Loire pour son soutien. Et enfin, merci à tous les élèves pour leur investissement dans ce projet. Je vous laisse donc tout de suite en compagnie de cette classe de première du lycée Camus.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sûr Jet FM 91.2. Nous sommes des élèves de première de l'option musique du lycée Albert Camus de Nantes et nous allons aujourd'hui aborder le jazz. Nous avons pu profiter d'un partenariat entre Jet FM, le Panonica et le lycée Albert Camus. Julien du Panonica et Julie de Jet FM sont venus au lycée pour nous proposer ces excellents projets et pour nous aider à les réaliser. Lors d'une conférence, nous avons également rencontré Guillaume Osbourg, qui est un pianiste, compositeur nantais, venu nous parler de ce style musical.
Donc nous sommes allés voir 117 éléments, un groupe de jazz au Panonica, et nous avons eu la chance de les interviewer pour vous. Nous avons également interviewé des personnes travaillant au Panonica, afin d'en savoir plus sur le fonctionnement de la salle. Et nous avons enregistré des extraits du concert pour que vous puissiez aussi en profiter. Mais donc avant cela, nous allons vous faire découvrir la salle. Donc restez avec nous sur Jet FM 91.2. Et à présent, je vais passer la parole au groupe de Mina.
Alors pour commencer, nous allons parler de l'histoire du jazz. Le jazz apparaît environ au XXe siècle. Il vient d'une culture noire américaine qui est inspirée de trois courants musicaux de l'époque. Le blues, une musique qui permet de raconter le quotidien des esclaves noirs. Le ragtime, qui est une musique joyeuse, dynamisée, et par opposition au rythme propre de la danse africaine, et en général écrite pour le piano. Et le negro spiritual, qui est un chant religieux noir que les esclaves chantaient lors de leurs travaux dans les champs. Ensuite, plusieurs courants de jazz ont suivi. Il y a d'abord le New Orleans, qui commence à peu près dans les années 1910. Ce sont des groupes qui jouent dans les rues et d'autres lieux assez restreints. Les instruments principaux sont les cuivres. Ensuite, dans les environs des années 1930, vient le swing. Le jazz commence à devenir beaucoup plus populaire. plus des groupes mais des orchestres de jazz. La danse est accompagnée parfois de morceaux. Ensuite, le bebop apparaît plus ou moins dans les années 1940. La musique est plus libre, les improvisations prennent une place centrale dans les rythmes et les rythmes sont de plus en plus complexes. Puis le jazz cool en 1950. On revient sur des bases plus simples, plus calmes que le bebop. Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Et enfin, en 1960 apparaît le free jazz, beaucoup d'improvisation à une époque où la communauté noire américaine veut se distinguer des blancs. C'est l'époque de la lutte des droits civiques pour les noirs. Enfin, rappelons-nous que la salle Panonica a aussi son histoire.
En effet, la salle Panonica est une salle de musique nantaise spécialisée dans le jazz et les musiques improvisées. Elle a été créée en 1994 et est maintenant l'un des lieux majeurs de ce type de musique en France, avec plus de 1000 concerts qui ont lieu provenant d'artistes internationaux. Le nombre de places peut varier selon la configuration. Avec la configuration assise, elle peut contenir environ 140 personnes, et debout, elle peut contenir jusqu'à 200 personnes. Par exemple, lors de notre visite, la configuration était mixte, avec des places assises devant la scène et des places debout plus reculées près du bar, ce qui favorisait les relations entre le public et les artistes, surtout au moment de l'entracte. En plus d'être une salle de concert, le Panonica développe des actions culturelles, notamment pour le public scolaire comme nous. Cette émission a d'ailleurs lieu grâce à ce genre d'action. Elle a pour objectif la sensibilisation et la découverte du jazz et des musiques improvisées. Les soirées Première scène et Nouvelle vague sont mises en place une fois par trimestre dans la salle, avec les écoles. Ils organisent aussi des rencontres entre les musiciens plus jeunes et professionnels. Tous ces objectifs contribuent à développer et faire partager la passion du jazz et des musiques improvisées au plus grand nombre. Cyril, le directeur, nous en reparlera un peu plus tard. Mais d'ailleurs, pourquoi cette salle s'appelle le Panonica ?
Eh bien, en fait, cette salle s'appelle Panonica, car elle vient du nom La Baronne Panonica, de son vrai nom Kathleen Annie Panonica de Königswarter, qui est née en 1913 et morte en 1988. C'est une mélomane britannique qui avait pour engouement particulier le jazz et surtout le jazz bebop. Elle se marie au baron Jules de Königswarter. Ils sont issus du même milieu social, mais tous les opposent. Lui, sérieux, responsable, et elle, une artiste, pianiste et peintre talentueuse. Elle se soucie peu des convenances de son statut que cela exigeait. Le baron va quitter sa femme, elle restera, elle, à New York, où elle continue sa passion pour le jazz. Elle finit par être exclue de sa famille, due à cette passion pour le jazz, qui lui coupera tous les vivres, mais réussira tout de même à s'en sortir. Elle fut la bienfaitrice et mécène du jazz et des jazzmen new-yorkais. Par exemple, auprès de Charlie Parker, qui mourut dans son appartement, Bud Powell et surtout Thelonious Monk qui vont trouver refuge chez elle. À Nantes, depuis 1994, la salle de concert spécialisée dans le jazz et la musique improvisée a pris pour nom Panonica, en hommage à cette figure emblématique du jazz. Donc du coup, nous vous laissons avec l'interview programmateur et directeur Cyril Gault.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
J'ai choisi ce métier par amour de la musique, parce que je suis à la base musicien et que je suis un musicien de jazz. Donc quand j'étais adolescent, j'ai découvert cette musique et ça ne m'a jamais quitté. Et un jour donc j'ai fait de la musique un moment de manière un peu plus professionnelle, jusqu'au moment où je suis revenu à Nantes, qui est ma ville, et où là j'ai commencé à travailler avec le premier directeur de Nantes Jazz Action, qui à l'époque avait une péniche, ça s'appelait la Péniche Bleue, près de la gare de Nantes, sur le canal Saint-Félix. Et c'est là que j'ai commencé à la fois je faisais de la musique, j'étais dans des groupes, et puis en même temps j'ai commencé à travailler dans la structure, et on a très vite mis le pied à terre, pour créer en 1994 le Panonica avec l'aide de la ville de Nantes.
Pourquoi avez-vous choisi avez-vous choisi d'intégrer la salle du Panonica ?
Justement, donc c'est encore une fois la passion que je portais pour cette musique et puis le fait qu'avec cette structure, j'ai pu faire pendant quelques temps donc à la fois de la musique. Alors, je ne la faisais pas forcément au Panonica, je la faisais dans d'autres lieux sur Nantes. Et puis en même temps, donc, j'étais employé par la structure pour développer. J'ai commencé à développer un certain nombre de choses au tout début du projet, notamment par exemple les liens avec les écoles de musique, avec les comités d'entreprise, enfin tout ce qui pouvait être des collectivités. Et puis j'ai commencé à travailler sur les temps forts du Panonica, parce qu'on avait quelques temps forts, c'est-à-dire des mini-festivals, notamment Salle Paul Fort. Et puis j'ai commencé à m'occuper aussi d'une dimension régionale, avec le collectif régional de diffusion du jazz, donc à travailler en région Pays de la Loire avec des acteurs culturels.
Sur quels critères choisissez-vous les groupes qui jouent au Panonica ?
Ça, c'est une bonne question. C'est une alchimie. C'est complexe, c'est très complexe aujourd'hui parce qu'on est extrêmement sollicité. Il faut savoir que le Panonica, c'est une des seules salles en France aussi spécialisée dans le domaine. Voilà, on a la chance d'avoir un équipement... cette petite salle que vous avez vue, de 140 places assises. Et donc, il y a beaucoup de musiciens qui veulent y passer. On a deux concerts par semaine, en gros, quoi, de octobre à mai. Malheureusement, on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc, les critères, c'est à la fois d'essayer, on va dire, viser juste, hein, une équité, une forme d'équité. Mais bon, après, c'est une équité très subjective. C'est l'équité que je me fais. C'est pas forcément celle du voisin, voilà, donc il n'y a pas de vérité là-dedans, mais j'essaye de trouver un équilibre entre une programmation d'artistes locaux, hein, c'est important, hein, parce que là encore je reviens à cette dimension de soutien au projet des collectivités locales, donc la ville de Nantes, vous êtes ici dans un équipement municipal, finance l'association, ainsi que le département, ainsi que le conseil régional, ainsi que l'État. Donc au titre des collectivités locales, territoriales, il est normal qu'on ait une responsabilité d'accompagnement des jeunes musiciens et des moins jeunes d'ailleurs, ceux qui sont sur le territoire à la fois local et régional. Donc il y a une partie de la programmation qui leur est dévolue. Ensuite, on accueille beaucoup de musiciens français, c'est de toute façon... essentiellement, ce sont des musiciens français qui viennent jouer au Panonica. Et puis, bien sûr, il y a une partie de musiciens internationaux. Je dirais d'abord des musiciens américains, parce que voilà, c'est l'histoire de cette musique qui fait qu'on accueille d'abord des musiciens américains, mais on a aussi des musiciens donc, européens, pas mal de musiciens européens. De manière quantitative, on peut dire qu'à 80%, 85% sont des musiciens français. Voilà. Et ouais, on a un quart de musiciens qui sont internationaux. Ensuite, il y a l'âge, hein, qui vient aussi. C'est-à-dire qu'on accueille des musiciens jeunes, ce qu'on appelle l'émergence. Hein. Donc ça, c'est important. C'est un travail de mettre en avant dans cette salle aussi les nouvelles générations qui amènent des nouvelles musiques aussi. Que, voilà, on est quand même dans le mouvement artistique. Hein. Je disais tout à l'heure, on est une scène de musique actuelle consacrée au jazz et musiques improvisées, mais il ne faut pas croire que c'est figé. C'est quelque chose qui est extrêmement, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte aujourd'hui, si vous avez une image du jazz, qui est une image peut-être appartenant au passé, musique patrimoniale qu'écoutaient nos grands-parents ou nos parents. Bon, ce qu'on va écouter ce soir, ça témoigne de l'évolution des pratiques musicales dans ce domaine. Alors certains se diront, c'est plus du jazz. C'est vrai qu'on est à la croisée des chemins. Mais là, je m'écarte un peu. Donc pour revenir sur la manière dont on programme. Il y a aussi, donc, on tient compte des jeunes générations, mais aussi, bien sûr, donc, des musiciens qui sont confirmés, qui ont un parcours, et puis des musiciens qui ont une notoriété.
Il arrive de choisir des groupes que vous n'appréciez pas musicalement, et pourquoi ?
C'est une bonne question. Ça ramène tout simplement au fait de savoir si je suis là pour me faire plaisir. Non. Au-delà de ça, en fait, c'est pas une question de plaisir. C'est une question de savoir si on est convaincu ou pas. Alors effectivement, c'est un peu imbriqué, hein. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut être convaincu sans avoir de plaisir à écouter ce qu'on écoute, c'est compliqué, hein, comme, comme positionnement. Moi, je sais que, bon, par exemple, cette semaine, on a fait une soirée en deux parties, donc il y avait deux formations. Bon, j'ai beaucoup hésité sur l'une d'entre elles. Hein. J'étais pas convaincu, en fait, mais j'ai quand même fait le pas. Parce que je me suis dit que c'était important d'ouvrir à d'autres formes de public, parce que l'image du Panonica est complètement spécialisée, donc voilà, ça pouvait permettre à des gens qui n'ont pas l'habitude de venir de voir ce que c'est. Ça m'arrive effectivement de faire des projets dont je suis pas forcément complètement fan, mais je le fais parce que effectivement ça, je pense que ça prend sa place dans l'échiquier musical, soit local, soit national, parce que c'est une question de diversité en fait. La diversité artistique, c'est quand même important de la défendre. Et bon, personnellement, j'écoute pas forcément tous les musiciens qui passent ici en boucle chez moi. On peut dire que, en grande partie, ce qui est programmé est quand même que c'est. Enfin, c'est à 99% la conviction que c'est important de le faire. Voilà, parfois il peut y avoir un petit doute. Hein. Laissons quand même une petite place au doute. Et puis après, bon, quant au plaisir, je dirais que oui, j'ai des coups de cœur. Par exemple, là, ce soir, c'était un coup de cœur. Est-ce que je n'ai que des coups de cœur ? Parfois, mon programme, sans effectivement être complètement emballé, mais on perçoit l'importance que ça peut avoir pour le projet.
Qu'aimez-vous dans votre travail ?
C'est justement cette réalisation d'alchimie, de trouver cette espèce de... Un peu comme un peintre, hein. C'est un tableau, il faut faire un tableau. Donc mettre des couleurs. Alors bon, ça pourrait être monochrome, hein, c'est vrai, mais je m'efforce que ça ne le soit pas. Donc avec des touches, des choses comme ça qui peuvent apparaître floues et puis progressivement qui apparaissent comme des directions. Construire une programmation avec des temps forts. Là, par exemple, le mois prochain, on fait un spécial jazz et cinéma.
Et qu'est-ce qui est le plus difficile ?
Le plus difficile, c'est effectivement qu'il faut faire des choix. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Voilà. C'est de dire je ne vous programmerai pas. C'est la tâche ingrate parce qu'effectivement, on reçoit énormément de propositions.
Avez-vous une anecdote à nous raconter sur un concert qui a eu lieu au Panonica ?
On a eu un des plus grands batteurs de l'histoire du jazz. Ici, il s'appelle Roy Haynes. Il est encore vivant, il a 90 ans. Hein. Je crois qu'il a... C'est un de ceux qui a joué le plus longtemps. Il y avait encore peut-être un an ou deux ans, il jouait. Là, maintenant, je pense que ça doit être un petit peu plus difficile, mais il jouait encore. C'est-à-dire, ça rigolait pas, ça jouait. Donc, il y a quelques années, on a eu la chance. Alors, il avait un grand chapeau de Texan comme ça, puis des bottes. Puis, il faisait un peu le show, quoi. C'est-à-dire, les Américains, ils aiment bien faire le show. Donc, il était passé derrière le bar et puis il avait demandé un cognac. Il était là en train de faire tourner son verre avec le cognac, puis ses lunettes et tout. Enfin, et tout voilà, c'était un peu une espèce de cow-boy incroyable. Mais c'était un des plus grands batteurs de l'histoire du jazz qui est venu au Panonica.
Et maintenant, nous allons vous présenter Julie, la chargée de production du Panonica à travers une courte interview réalisée par Léonard et moi-même.
Bonjour, donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors, je m'appelle Julie Joachin et je travaille ici en tant que chargée de production.
D'accord. Vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ?
Alors, chargée de production, c'est tout ce qui relève de l'organisation, en fait, quand on organise un concert. Donc, en gros, je m'occupe de réserver les billets de train pour les musiciens, réserver leur hôtel, réserver les repas. Je récupère ce qu'on appelle les fiches techniques des musiciens, c'est-à-dire tous leurs besoins en matériel. Voilà, donc je m'occupe en fait de tout ce qui est organisationnel et le jour du concert, je vais les chercher à la gare. Et en plus de ça, je fais aussi leur contrat et leur paye.
Donc je suppose qu'il y a un parcours scolaire bien défini à suivre. Et si oui, est-ce que vous pouvez nous définir quel parcours scolaire vous avez suivi ?
Alors moi, j'ai pas fait le parcours scolaire, j'ai pas été formée spécialement à ce métier-là. J'ai fait une année après le bac d'histoire de l'art à la fac. Ensuite, j'ai fait un BTS tourisme. Et c'est pendant mon BTS tourisme, en fait, j'avais pris l'option organisation. Et donc, du coup, j'ai fait un stage dans un grand théâtre. Et c'est là que ça m'a donné envie de travailler dans le milieu du spectacle.
Qu'est-ce qu'une journée type pour vous ?
Alors, les jours de concert, la journée, je viens ici avant que les musiciens arrivent pour préparer un peu les loges, aider le technicien à mettre le matériel sur scène. Après, je vais les chercher. Voilà, je les ramène ici. Puis après, en gros, on met la table, on accueille le traiteur. Et puis moi, c'est surtout après, à la fin du concert, où j'aide à ranger, en fait.
D'accord. Est-ce que en dehors du travail que vous effectuez au Panonica, vous avez besoin de travailler à la maison ?
Non, j'ai pas besoin de travailler à la maison, non.
On voudrait savoir aussi comment est-ce que vous travaillez avec le reste de l'équipe du Panonica, c'est-à-dire qui vous donne les directives, comment tout ça s'organise ?
Alors, nous, à partir du moment où il y a une action ou un concert ou quelque chose de calé, un directeur nous dit bah, tel groupe vient, tel jour, ils sont en temps, on les met dans tel hôtel, il faut acheter des billets de train ou ils viennent en voiture, enfin voilà. On récupère les infos et après, moi, soit je suis en contact en direct avec un musicien, donc on échange ensemble pour nous caler, soit il y a des fois des groupes où il y a des gens qui s'occupent d'eux, en fait, donc tu es en lien avec eux. Après, Julien, il organise des actions culturelles, donc c'est vrai qu'on peut aussi avoir à travailler ensemble. On est tous un peu autonomes hein, sur nos postes. Avec la billetterie, ça va être plus sur le remplissage de la salle, comment installer la salle, s'il y a trop de monde, s'il y a beaucoup de monde, s'il y a... Voilà, on est tous... Enfin, on travaille tous en lien les uns avec les autres, hein, de toute façon. Mais après, on est assez autonome. On n'a pas des directives. C'est pas un grand groupe où chacun... Enfin, voilà, on est tout suivant. Si moi, j'ai besoin d'aide, les gens, ils viennent m'aider aussi. Hein. S'il faut que j'aille chercher une batterie et que... Ailleurs, enfin, voilà, je demande à quelqu'un de venir m'aider. Enfin, voilà, on s'organise. On est une petite équipe, on est 6, donc tout le monde s'aide. Hein.
Est-ce que c'est à vous de vous occuper de la gestion financière des groupes ? Qui viennent au Panonica ?
Non, pas du tout. Non, mais moi, je fais juste leur contrat de travail et puis leur chèque, parce qu'on les paye. Mais sinon, après, non. Il y a quelqu'un qui a un poste où il gère tout ça, la gestion financière de l'association, les budgets, les demandes de subventions, tout ça. Non, c'est pas moi.
Et on voudrait savoir aussi quel genre de problème est-ce que vous pouvez rencontrer. Par exemple, il y a des artistes qui sont censés venir et ils viennent pas. Ou quel genre de problème vous pouvez rencontrer un soir de concert ?
Alors, c'est déjà arrivé que la veille ou le jour du concert, on apprenne qu'il y a un musicien qui vient pas, qui est malade. Donc là, faut qu'on embauche la personne qui vient à sa place. Donc là, faut récupérer ce qu'on appelle les coordonnées sociales, c'est-à-dire son nom, son prénom, sa date de naissance, enfin, pour pouvoir lui faire un contrat de travail. Donc ça peut arriver. Et sinon, des fois, ce qui m'arrive, c'est quand on a un ampli guitare ou qui marche pas. Donc là, faut que j'en trouve un rapidement, en fait, le jour même. Donc ça peut être le genre de problème qui nous arrive. Après, on n'a pas trop de soucis en règle générale.
De notre côté, on a fait des recherches sur Internet et on a trouvé que vous faisiez des concerts chez l'habitant.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous éclairer ?
Quand on a un concert au Panonica, la veille ou le lendemain du concert, on propose à un musicien nantais de jouer avec un des musiciens qui est là. Et donc, du coup, on organise ça, c'est chez des gens. Donc ça, c'est surtout le président de notre association qui s'occupe de ça. Il trouve des gens qui sont prêts à accueillir un concert chez eux. Donc, en gros, c'est 20 personnes qui peuvent venir assister au concert. Donc, c'est souvent de l'improvisation. Les deux musiciens se rencontrent 2 heures avant. Donc, ça se passe comme ça. On en fait 3 par an.
Sinon... quelques petites choses à rajouter à propos de votre travail.
Enfin, sur mon poste à moi, il faut être assez organisé, ne rien oublier, être autonome et puis débrouillard, on va dire. Voilà. Et là, c'est plus être dans l'associatif et puis on est peut-être tous des passionnés, en fait, mais comme les gens qui bossent dans les associations souvent. Mais...
Et tout de suite, retour avec Mina pour l'envers du décor.
Et maintenant, nous allons écouter l'interview de Reynald, le technicien son de la salle. Mais avant ça, nous allons vous présenter brièvement son métier. Le technicien son a été très présent avant le concert. Il a réglé le volume pour les spectateurs et les retours pour les musiciens. Le tout derrière une grande table de mixage. Après que les musiciens aient répété et que le technicien se soit occupé des balances, c'est-à-dire le nom que l'on donne au réglage, le concert peut commencer, mais les problèmes peuvent survenir même pendant le concert. Donc il est nécessaire que le technicien soit aussi présent lors du spectacle. Maintenant, on va vous présenter l'interview que le technicien a bien voulu nous accorder.
Est-ce que vous pourriez vous présenter assez brièvement ? Moi, je m'appelle Reynald et je m'occupe du son dans l'ensemble sur les salles ici, le Panonica et Paul Fort là-haut, qui sont des salles municipales. Voilà. Alors, on va peut-être développer après, mais.
Bah justement, c'est la question. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer en quoi consiste votre...
Je m'occupe du son des groupes quand il n'y a personne avec eux. Alors, moins au panneau, mais beaucoup plus là-haut. Souvent, il y a un ingénieur du son avec le groupe. Donc là, dans ce cas-là, j'accueille l'ingénieur du son du groupe. En fait, le truc, c'est que le sonorisateur du groupe, donc lui, connaît très bien le groupe et il ne connaît pas forcément où il arrive. Moi, je connais très bien la salle et le matériel. Par contre, je ne connais pas forcément le groupe. Donc, on fait cette liaison pour que tout se passe bien.
Ça fait combien de temps que vous faites ce métier ?
Ça fait 20... Oui, plus de 20 ans, ouais.
Alors, du coup, vous faites seulement le métier de technicien. Et est-ce que vous travaillez seulement dans des salles de concert aussi ?
Oui, parce que en fait, moi, je suis permanent dans les salles ici, donc je bon, alors ça peut m'arriver d'aller ailleurs, mais voilà, là, mon travail, c'est vraiment sur ces salles. Les techniciens en son ou en lumière, soit on est permanent dans une salle, soit on est intermittent. Alors on peut être intermittent en venant souvent dans les mêmes salles, mais voilà, les intermittents, eux, par exemple les sonorisateurs des groupes dont je vous parlais, eux sont intermittents, ils bougent avec les groupes dans où vont jouer les groupes. Alors que voilà, moi j'ai fait ça avant, et là maintenant je suis permanent dans une salle, donc je travaille quasi exclusivement dans ces salles.
D'accord. Et en moyenne, combien de temps ça vous prend pour organiser le concert et la salle ?
Alors, ça dépend des concerts. Il y a des concerts de plus ou moins importants. En général, pour un concert, il y a du travail en amont, pas mal. On reçoit des fiches techniques, c'est-à-dire tous les besoins techniques, entre autres. Mais pour ce qui me concerne, moi, les besoins techniques en son. Pour le concert à telle date. Moi j'appelle en général donc le sonorisateur du groupe qui a fait cette fiche technique pour voir déjà si c'est à jour, parce que leurs besoins peuvent évoluer, voir si c'est à jour. On s'arrange s'il y a des choses qu'on n'a pas, mais on a toujours des équivalents, etc. Vraiment, si ça ne va pas, on peut louer du matériel aussi. Voilà, donc il y a cet échange-là qui se fait en amont, une semaine, 15 jours, un mois avant, voilà, pour que le jour du concert, il n'y ait pas de surprise. Et voilà, le jour du concert en lui-même, les éclairagistes travaillent un petit peu plus tôt. Ils occupent le plateau pour faire des réglages, etc. Moi, j'arrive en général en fin de matinée et puis j'installe tout ce que je peux installer selon la fiche technique, en fait. Si elle est plus ou moins précise, voilà, plus elle sera précise, plus je pourrai préparer en amont la venue du groupe. Après, donc, en général, le groupe vient dans l'après-midi, au milieu d'après-midi. On fait la balance, donc il s'installe, on peaufine les micros. S'il n'y a pas de sonorisateur, je m'occupe de leur son, on fait la balance. S'il y a un sonorisateur, je l'accueille et je fais en sorte qu'il ait tout ce qu'il faut pour travailler correctement. Voilà, après on va manger, après c'est le concert et puis après on ramasse tout.
Est-ce que vous rencontrez assez souvent des problèmes techniques ou des choses comme ça qui vous empêchent certains autres?
Le principe, c'est qu'il n'y a rien qui empêche, de toute façon. Le maître mot, que ce soit pour le personnel technique ou tous les gens qui sont là pour ce concert, c'est que ça joue le soir, de toute façon. Donc il peut y avoir des problèmes. Alors techniquement, voilà, s'il y a une grosse panne, on va soit on remplace, soit on fait des compromis, soit on va louer du matériel. Voilà. Après, mon travail aussi, c'est qu'il n'y ait pas de panne. c'est qu'on ne rencontre pas ces soucis-là. On fait en sorte d'avoir du matériel entretenu, remplacé en cas de panne, etc., pour ne pas rencontrer de soucis. Voilà, on ne faut pas paniquer. Après, notre rôle aussi en tant que technicien, c'est y a beaucoup de relationnel aussi avec un artiste. Un artiste, c'est pas anodin d'être sur scène. Notre rôle aussi, c'est de pallier à tout ce qui est technique, mais aussi de faire en sorte que les artistes soient à l'aise, soient bien sur scène, qu'il n'y ait pas de soucis ou de tensions ou quoi que ce soit. Plus l'artiste sur scène sera bien dans ses baskets, mieux ça se passera en fait, pour tout le monde.
Ok.
Cet élément ont joué des morceaux de leur album Flash Memory et aussi quelques morceaux de leur tout nouvel album EP, Dark Flow, sorti en janvier 2016. Avec Tony Pelmad au Rod, c'est un instrument paru pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale. On cherchait à créer une forme de piano qui serait de petite taille pour mieux être transporté. Malgré le fait qu'il n'ait pas de cordes, il est très proche du piano. Les touches déclenchent des marteaux qui tapent dans ce que l'on appelle des tone bars, qui sont des tiges métalliques jouant le rôle de cordes d'un piano. Pour jouer, on le branche dans un ampli. Mais comme une guitare électrique, on obtiendra quand même le son d'une ampli, mais un son faible. Il comporte seulement 13 touches, le piano classique en a 88. Beaucoup joué dans les années 1970, caractérisé par sa facilité à être transporté et par son son doux et chaleureux, mais à la fois dynamique, très expressif. Et maintenant, écoutons un extrait de l'interview du groupe réalisé juste avant le concert.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Christophe. Je joue du saxophone. Je joue en général très vite et très fort, et j'utilise plein d'effets électromagnétiques.
Moi je m'appelle Julien, je suis le bassiste et co-leader du groupe avec Tony. J'utilise aussi plein d'effets électromagnétiques. J'ai une basse avec 4 cordes, des frettes, des petits boutons pour faire... voilà.
Bonjour, je suis Tony, le claviériste du groupe et co-leader. Également avec mon ami Julien de ce groupe. Et je joue du Rhodes, du Fender Rhodes. Mais le vrai nom c'est Rhodes parce que Fender, il a arrêté. C'est un clavier qui date des années 60 et qui a été produit jusqu'en 1980, voilà pour la petite histoire. Et moi aussi j'utilise pas mal de pédales de guitare pour trafiquer le son et un ampli de guitare aussi. Donc j'ai un peu une chaîne qui est utilisée pour la guitare mais avec un clavier. Et sur ma gauche.
Je m'appelle Arnaud et je ne joue que la batterie. Oui. Sans effet, sans rien. Tout simplement, nature. Et je ne suis pas leader, non.
Ensuite, deuxième question, quand est-ce que votre groupe il s'est formé ?
Alors ce groupe a environ 4 ans, 4 ans et demi, je pense. Je dirais dans un laps entre 4 et 5 ans. Et ça a commencé avec Julien et moi, on jouait dans d'autres groupes ensemble. Et on se connaît depuis, je ne sais plus, chaque fois qu'on doit le dire, on ne sait pas, mais depuis que j'ai 18 ans, donc environ plus de 15 ans. et on avait pas mal joué ensemble. Donc à un moment, on a dit, bah viens, on a des goûts très, très similaires, donc ça serait bien qu'on fasse un groupe ensemble.
Ok, et vous avez dit que vous étiez les co-leaders du groupe, c'est-à-dire, ça consiste en quoi?
Alors, comme son nom l'indique, on co-écrit déjà les morceaux. Il y a à peu près moitié-moitié de morceaux écrits par Tony et d'autres par moi.
Est-ce que vous vivez de votre musique? Et si oui, comment est-ce que vos journées au quotidien, ça s'organise? Comment est-ce que vous organisez votre quotidien?
Oui, on vit tous de la musique, on est tous intermittents du spectacle. Alors les journées, on se lève vers le matin vers 13-14 heures. On mange, on boit énormément, on se couche à 16 heures. Ça, c'est fait.
Une réponse sérieuse. Comment on s'organise les journées? Jamais pareil. Je pense que c'est ça la base, c'est qu'il n'y a pas une journée qui est la même qu'une autre. Parce qu'on joue tous dans plusieurs groupes. Donc soit on est en concert quelque part... Et du coup, comme ce matin, tous les jours c'est différent. En général, dans une journée, on a au moins une répète et un concert.
Comme il dit, avec tous les groupes qu'on fait cumuler, et je sais pas exactement combien on en fait chacun, mais ça peut être entre 3 et 10, quoi. Et du coup, mis bout à bout, chaque groupe isolé, mis bout à bout, ça peut faire entre 8 et 20 concerts par mois. Bon, 20 concerts, c'est vraiment une grosse tranche élevée. Mais en moyenne, on fait bien 10 ou 12 concerts par mois, quoi.
Ouais, il y a des périodes où on peut jouer avec vraiment beaucoup de gens, beaucoup de groupes et beaucoup de styles de musique différents aussi.
Vous avez parlé de que vous aviez joué à Paris au début, vous jouiez dans des petits cafés. Est-ce que vous voyagez beaucoup pour jouer? Pas nécessairement avec ce groupe-là, mais avec d'autres groupes
Oui, on voyage beaucoup. Chaque groupe est voué à aller jouer ailleurs en France déjà au minimum, et puis après en Europe, et puis après ailleurs. Et c'est génial de pouvoir... C'est génial de pouvoir voyager avec la musique déjà.
Donc maintenant, revenons-en au groupe. On a parlé de Tony, mais on a vu qu'il n'était pas seul. Donc il est accompagné de Julien Arnay à la basse, de Christophe Panzani au saxophone et de Arnaud Renaville à la batterie. Donc une particularité de ce groupe, c'est le saxophone qui joue avec des pédales. Donc on voit aussi que sur son saxophone, il utilise un mini clavier électronique qui lui permet d'émettre des bruits synthétiques. On a essayé de trouver un nom à ce clavier, mais ça a l'air d'être une invention du musicien. Donc ça nous donne une approche complètement différente de l'instrument.
Ce quartet de brillants nous a fait découvrir un nouveau style, le groove organique. Un morceau de groove organique, grosso modo, c'est à mi-chemin entre l'électro et une musique chaleureuse qui crée une atmosphère fluide. On a cette notion de courbe et d'envoûtement qui revient. 117 éléments, c'est un groupe qui semble aussi, quand on l'écoute, avoir des inspirations rock, jazz. Il joue avec des effets électroniques de tout genre. Cette combinaison de musiciens et de sons vous emporte dans un nouveau monde. Nous en sommes tous ressortis très inspirés. On envoie la deuxième partie de l'interview de 117 éléments.
À quelle fréquence vous représentez sur scène?
On joue pas très souvent avec ce groupe, mais tous les groupes confondus, ça par contre, je sais pas, on doit faire une... En 10 et 15 concerts par mois. Je pense tout groupe confondu, mais avec ce groupe, on doit... Je peux pas dire, franchement.
Entre 4 et 8 fois par an avec ce groupe. En gros, quoi. Ce qui est à la fois peu, mais par contre, c'est de manière assez régulière. Et ce, en effet, depuis 4 ans. Donc c'est ça qui nous tient dans nos trucs. Mais sinon, oui, voilà, comme il dit, avec tous les groupes qu'on fait cumuler, et je sais pas exactement combien on en fait chacun, mais... Ça peut être entre 3 et 10, quoi. Et du coup, mis bout à bout, chaque groupe isolé, mis bout à bout, ça peut faire entre 8 et 20 concerts par mois. Bon, 20 concerts, c'est vraiment une grosse tranche élevée. Mais en moyenne, on fait bien 10 ou 12 concerts par mois, quoi. Mais voilà, avec les temps de transport, les trucs, ça prend déjà 3 quarts du mois, quoi.
Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Et puis aussi, quelquefois, il y a des remplacements, ouais. des enregistrements... On nous appelle juste pour, par exemple, pour faire un disque. Et puis, après, on ne fait pas forcément les concerts derrière. Avec tout ça, c'est vrai que ça... Ouais, il y a des périodes où on peut jouer avec vraiment beaucoup de gens, beaucoup de groupes et beaucoup de styles de musique différents aussi.
Vous avez parlé de que vous aviez joué à Paris au début... Vous jouiez dans des petits cafés. Est-ce que vous voyagez beaucoup pour jouer? Pas nécessairement avec ce groupe-là, mais avec d'autres groupes.
Oui, on voyage beaucoup. On voyage beaucoup. D'ailleurs, comme mon ami Arnaud se plaît à le dire, moi, je suis rentré de New York avant-hier. Hier, en fait. Hier matin.
Mais on prend tous beaucoup d'avions, beaucoup de trains, parce que dans voilà les entre 6 et 10 groupes dans lesquels on joue régulièrement, il y en a assez peu qui sont voués à jouer qu'à Paris. Donc on est tout le temps en train d'aller ailleurs. Et en plus les concerts qu'on fait à Paris, c'est la scène musicale, elle est assez elle est très très développée, mais au niveau représentation, au niveau endroit où on peut jouer, c'est assez réduit. Et du coup, chaque groupe, pour se développer, il a besoin d'aller jouer ailleurs qu'à Paris. Même si à Paris, il y a toute la presse, il y a tout. Donc c'est important d'y être pour se faire connaître et pour se faire entendre. Mais ensuite, chaque groupe est voué à aller jouer ailleurs en France, déjà au minimum. Et puis après, en Europe, et puis après ailleurs. Et c'est génial de pouvoir voyager avec la musique déjà. Enfin, il y a des musiciens qui aiment pas du tout voyager, mais par contre j'en connais beaucoup quand même qui aiment beaucoup ça. Et voilà, il faut aimer ça pour faire de la musique déjà, je pense. Parce que
du coup on vit beaucoup de choses, il y a plein de moments dans des tournées où on se retrouve dans des endroits quelquefois un peu improbables, des lieux où on n'aurait jamais été pour faire du tourisme par exemple, et du coup ça peut être très quelquefois déroutant. Au Kosovo, là il y a quelques mois on était au Kosovo. Ouais, bah, par exemple moi j'ai fait la tournée vraiment qui m'a le plus marqué, c'était une tournée en Alaska pendant 15 jours. C'était le truc le plus improbable. On a joué dans des petits villages où il y avait vraiment 300 habitants, il n'y avait pas de route, il fallait y aller avec un petit avion 7 places. Puis on jouait dans des écoles pour des enfants qui nous avaient fait des dessins. Enfin bon, bref, c'était vraiment quelque chose de fantastique. Après, par exemple, c'était avec un groupe l'année d'après, ou je sais plus, plusieurs années après, on avait joué au Mexique, dans une ville qui s'appelle Chihuahua, qui était une ville très dangereuse. Enfin bon, bref, on passe de l'un à l'autre. Voilà, c'est vrai que ça peut être des expériences comme ça. De mon fait, moi, j'irais pas prendre un billet d'avion pour aller dans telle ville pas forcément très accueillante, ou même en Alaska. Moi, je me suis dit, hormis pour voir des ours. Non, voilà quoi. Je crois qu'on a tous vécu ce genre de trucs. C'est vrai que la musique fait un peu partie de ça, quoi.
À quel âge avez-vous commencé la musique? Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer et à en faire votre métier?
Moi, je fais du piano depuis que j'ai 5 ans. C'est mes parents qui m'ont obligé à coup de fouet. Non, mais ils ont sauté une génération. Mon grand-père était musicien, c'était une famille d'artistes, mais mes parents étaient rien du tout. Enfin, on était pas du.
Mes parents, on va la garder.
Mes parents étaient rien du tout artistiquement. Donc, ma mère était hyper frustrée. Donc, elle a dit il faut absolument qu'ils fassent de la musique. Voilà. Et c'est pour ça que j'en ai fait. Et j'ai fait comme tous les pianistes, il y en a d'autres, surtout du classique jusqu'à au moins 14 ans, 13-14 ans, que du classique. Et après, j'avais un prof hybride qui m'a quand même branché sur le jazz. Il m'a demandé si ça me plaisait et j'ai vraiment, vraiment adoré. Donc du coup, ça s'est passé comme ça. Mais ça s'est décidé un peu tard finalement de se dire je veux vraiment faire ça. Je pensais que c'était pas vraiment possible, quoi. J'adorais jouer de la musique, mais entre les parents qui disent toujours ça serait bien que tu sois médecin quand même, et puis éventuellement la réalité de ce qu'on fait maintenant, là ça nous paraît évident, mais tant qu'on sait pas comment ça se passe, on le fait pas. Et du coup voilà, je pensais même avant que je serais plus ingé son, je voulais faire des études, mais j'ai pas trop réussi. Et donc j'ai rencontré ce monsieur là d'ailleurs un peu à cause de lui, où je me suis retrouvé au conservatoire de Nice un peu parce qu'il m'a dit d'y aller pour voir. Et là par contre les profs étaient quand même d'un meilleur niveau et ils m'ont dit bah, c'est bien, y a moyen de faire quelque chose si tu travailles et tout. Et là ça y est, c'est basculé, mais c'était donc 18 ans passés. Donc avant ça je pensais que c'était pas possible de vraiment en vivre, quoi. Je me suis dit c'est un rêve, mais voilà, je pensais que ça serait qu'un à côté. Et par contre après ça part dans autre chose. Moi perso c'est pas mal d'études de conservatoire où mes parents m'ont dit ok tu peux faire ça, et j'ai fait 5 ans à Nice et 4 ans après au conservatoire de Paris. Donc c'est un peu un genre de cursus de médecin mais en musique, quoi. C'est un bac plus 9 de musique. Et ça amène tard du coup, mais et voilà. Et après, depuis que j'ai 28 ans, dès que je suis sorti, souvent la plupart on devient intermittent du spectacle. Là c'était le cas. Et Et après, c'est un truc qui... plus on joue en général. Enfin, j'espère, sauf si on a notre carrière qui s'écroule à un moment, mais c'est plutôt... C'est des choses plutôt ascendantes, donc c'est plutôt bon signe, quoi.
J'ai commencé, j'ai une dizaine d'années. Pareil, mes parents n'étaient pas musiciens. C'est mon oncle qui était le musicien de la famille, qui avait une batterie. J'ai commencé comme ça. J'ai pas fait trop d'école, moi par contre j'ai fait pas mal de cours particuliers avec des profs différents. Moi je viens de Belgique, donc j'avais un super prof en Belgique qui a monté une grosse école maintenant en région parisienne. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à Paris, je l'ai suivi et j'ai fait cette école il y a 12 ans maintenant. Et après avoir fait cette année d'études, je suis resté en France. Donc pas trop d'école à part ça pendant un an, et puis pas mal de cours particuliers. Enfin, je ne me voyais pas faire autre chose, donc je me suis pas trop posé de questions. Moi je voulais être musicien. Et si c'était pas ça, ben, un peu rien d'autre, donc j'ai fait ça, tout simplement.
Alors, pour ma part, moi au début j'ai voulu commencer par la guitare, parce que mon père jouait de la guitare, il voulait absolument faire comme lui. Mais en fait, mes potes étaient un peu plus âgés que moi, et ils jouaient tous de la guitare, évidemment. Et comme j'étais plus petit, ils m'ont dit « Non, toi, tu vas faire la basse. » Donc voilà, donc j'ai commencé la basse comme ça. Et puis après, en plus, ça m'a permis de jouer avec mon père, du coup. Et puis j'y ai pris tellement goût que... Voilà, puis après, je me suis intéressé vraiment aux bassistes. Donc voilà, de fil en aiguille, après, je me suis retrouvé au Conservatoire de Nice. Et pareil que Tony, alors moi, je pensais en faire mon métier, mais quand même pas certain. Et puis là, j'ai commencé à jouer dans les clubs à Nice, et d'ailleurs avec Tony. On a commencé ensemble, et il y a de ça longtemps. Et puis, un jour, j'ai décidé d'aller à Paris pour un petit peu étoffer un peu tout ce que je faisais et essayer de voir un peu d'autres choses. Voilà.
Mon père jouait de l'accordéon, parce que son père jouait de l'accordéon avant. Mon père jouait de l'accordéon et de l'harmonica, mais c'était juste comme ça à la maison. Et c'était surtout le dimanche dans la famille quand on se retrouvait pour... chez ma grand-mère pour manger, et ma grand-mère elle chantait et son copain il jouait aussi de l'accordéon très bien. Enfin bon, c'était tout le monde chantait, jouait de l'accordéon, c'était marrant quoi. Et moi j'ai grandi là-dedans, mais il y avait, en fait, j'habitais en face de l'école de musique, mais après en fait dans les études j'étais pas super bon et du coup ils m'ont vite fait comprendre que ce serait pas possible. Et voilà, et en même temps, j'étais toujours soit à l'école de musique, soit après je suis rentré au conservatoire, et du coup je faisais toujours les deux, jusqu'à ce que j'ai fait un IUT, je vous dirai même pas de quoi, ça sert à rien, mais enfin, ou juste j'ai fini dans les derniers de la promo, quoi. Donc là je me suis dit, il y a vraiment un truc, faut que j'arrête, et donc j'ai arrêté, et j'ai fait que de la musique. Moi au début je me destinais à l'enseignement, parce que quand on sort du conservatoire, à ce moment-là, moi, je faisais pratiquement que du classique. Enfin, j'avais un groupe de funk avec deux amis qui sont toujours des amis qui ont fait un groupe fameux avec notre ami batteur, un groupe qui s'appelle Electro Deluxe. Donc, on a fait nos études ensemble au conservatoire à Grenoble. Et en fait, il n'y avait pas vraiment d'avenir comme ça. Quand on est dans les études, on se dit, si je veux continuer de faire de la musique, à cette époque-là, il n'y avait qu'un seul truc, c'était d'être prof, quoi. Parce qu'on ne voyait pas comment on faisait, là. C'est ce que disait Tony tout à l'heure. On ne savait pas que c'était possible d'être musicien, et puis on ne voyait même pas comment ça marchait, quoi. Comment on devient musicien professionnel, ça ne voulait pas dire grand-chose pour nous, enfin, en tout cas pour moi. Du coup, j'ai fait des études pour être prof de musique dans les conservatoires et tout ça. Et après, j'ai commencé à un peu enseigner... Mais j'ai déjà arrêté de faire de la musique classique, parce que la musique classique au saxophone, c'était pas vraiment mon truc non plus. Et voilà, j'ai fait de plus en plus de jazz, joué de plus en plus, déménagé, aller dans une autre ville, rencontrer d'autres gens, nanana. Et jusqu'à ce que je rencontre certains musiciens qui m'ont dit que, enfin, qui m'ont donné suffisamment confiance pour que j'arrête de, les cours et que je fasse que essayer de faire des concerts et écrire de la musique.
Donc maintenant, on va vous faire écouter les micro-trottoirs qu'on a réalisés. Donc on a récolté les avis des gens avant et après le concert pour voir un petit peu s'ils avaient déjà été voir le groupe et les avis ensuite des spectateurs quand ils sont sortis, voir si ça leur avait plu et s'ils reviendront au Panonica.
Donc on voulait savoir si vous veniez régulièrement au Panonica voir des concerts.
C'est la première fois qu'on vient ?
Oui, une fois par mois.
Deux fois par an, oui, c'est régulier ?
Oui, très régulièrement. Ils appellent ça un petit chat fidèle.
Et est-ce que vous avez déjà vu le groupe qui joue ce soir, 117 éléments ?
Non, c'est la première fois.
Non, pas du tout.
Je les reconnais individuellement, je les ai déjà vus autrement.
Et on voulait savoir comment vous l'avez connu ce groupe ?
De bouche à oreille.
On ne connaît pas en fait. On a regardé le petit résumé qu'il y avait sur la programmation du Panonica.
Sur le programme, j'ai reconnu un certain nombre de musiciens.
On regarde le programme, on trouve une date qui nous convient. À chaque fois, c'est une découverte.
Et on voulait savoir à quoi vous vous attendiez.
J'ai eu un aperçu, mais je ne suis pas allé chercher.
Je m'attends à du jazz électro expérimental. Après, je n'ai vraiment pas regardé, j'aime bien la surprise.
Un bon moment.
Donc du coup, après bon, bah, ces passages, qu'en avez-vous pensé finalement ?
C'était chouette, mais c'est bien que ce soit pas fini. C'est très planant, très... ça a l'air très construit, ils sont très carrés. J'ai l'impression que chaque musicien prend est mis en relief à un moment et c'est très joli, très beau.
Très bien. Et le saxo est cool aussi. Le saxo, je trouve qu'il est vachement cool.
Ouais, c'est très chouette. Je ne sais pas comment il est bidouillé, mais il est carrément cool.
Je suis ravi, vraiment. Ça groove à fond. Il y a presque même un regret quelque part, c'est que ce soit en configuration assise.
C'est ce à quoi vous vous attendiez ou pas vraiment ? C'est vraiment une surprise.
Non, ouais, je m'attendais un peu à ça.
Je m'attendais pas à grand chose, quoi, mais ouais, à peu près ça. Enfin,
j'avais pas forcément d'a priori. Ouais, je connaissais un peu le travail de Tony Pellman, notamment là, en introduction du concert, il disait qu'il jouait avec le quartet Tan Paseo, là, la batteuse qui vient de sortir un album, qui s'appelle Circle. Et voilà, je savais ce qu'il était capable de faire, et au contraire, ça me plaît bien. Quoi, ouais.
Ouais. Merci beaucoup, bah, bonne soirée et bonne continuation.
Merci, vous aussi.
Et maintenant, place aux critiques de ce concert. Le concert en général, c'était bien. J'ai aimé la batterie, c'était génial. Des fois, il allait tellement vite, c'était impressionnant. J'ai beaucoup aimé aussi le contraste de l'électro avec les jazz.
Tous les membres de 117 éléments étaient vraiment super. Mais le saxophoniste m'a particulièrement marqué parce qu'il devait avoir beaucoup de souffle, mais aussi faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire qu'il utilisait des effets spéciaux différents malgré son saxophone. Ce n'était pas du tout ce qu'on avait l'habitude de voir, parce que lorsqu'on nous parle de jazz, c'est pas tout à fait ce qu'on aurait pu penser. J'ai beaucoup aussi aimé les musiciens parce qu'ils avaient l'air vraiment contents d'être sur scène. Et il y avait une bonne relation entre le public et les musiciens, un peu comme une ambiance comme quand on est avec des amis et qu'on veut rigoler.
Pendant le concert, ils racontaient des petites blagues, mais aussi certaines anecdotes, comme lorsqu'ils allaient jouer à un morceau festif. Ils nous ont parlé de leurs fêtes et leur style de musique qu'ils jouent ou bien qu'ils mettent durant ces fêtes. Malgré le fait que parfois la musique était un peu trop forte, il y avait des boules quies au comptoir si jamais on avait besoin. Le public au Panonica était vraiment près de la scène, c'est pourquoi il fallait faire attention. Lorsque l'on écoute de la musique, c'est important de faire des pauses et de ne pas écouter la musique trop fort, que ce soit sur une chaîne hi-fi ou bien un casque. Les dommages sur l'oreille interne sont irréversibles. J'ai trouvé que les musiciens étaient vraiment doués.
Personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon concert dans l'ensemble. Par contre, j'ai pas trouvé de référence au vrai jazz. Cependant, j'aime bien découvrir de nouvelles musiques et de nouveaux styles. Donc, à certains moments, mon attention était retenue par un ou plusieurs musiciens, notamment le pianiste et le bassiste. Personnellement, je trouvais plutôt que ça ressemblait à un concert à tendance électro.
Finalement, je crois que tout le monde a aimé puisqu'il y a deux rappels à la fin du concert. C'était inattendu. Pour finir, on va vous faire écouter un petit extrait de ce concert.
Voilà, l'émission s'achève ici. Donc, pour finir, on voudrait dire un grand merci à Julien du Panonica, Julie de JFTFM, Monsieur Leroux qui sont à l'origine de ce projet, et au Panonica pour leur accueil, et aussi à 117 éléments pour avoir accepté d'être interviewés, et à JFTFM pour leur accueil, et à vous tous pour avoir réussi à nous écouter jusqu'à la fin. Pour finir, on va vous faire écouter un extrait d'un morceau que moi-même, Tanguy et Rémi avons joué. C'est un espèce de remix de Schema de 117 éléments et Pitch Black du même groupe. Et on a essayé d'un peu fusionner les deux morceaux à notre façon. Donc, ouais. Au revoir.